France Inter. Le 7-10.
Lundi 1er avril, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Laurence, l'opposition turque remporte une large victoire lors des municipales.
Et c'est exactement le scénario que le président Erdogan redoutait. Un raz-de-marée de l'opposition à Ankara et Istanbul où le maire İmamoğlu se prend désormais à rêver d'un destin national. Après Malte et le Luxembourg, le cannabis récréatif devient légal aujourd'hui en Allemagne. Les plus de 18 ans peuvent acheter jusqu'à 25 grammes par jour maximum. Selon le gouvernement, la nouvelle législation devrait permettre de lutter plus efficacement contre les trafics. La mort du petit Émile, chute accidentelle, homicide involontaire ou meurtre? Encore beaucoup de questions au lendemain de la découverte de son crâne. Dans le hameau du Haut-Vernay, des fouilles intenses doivent reprendre. Parmi les changements du 1er avril, la fin de l'affichage obligatoire de la vignette d'assurance sur le pare-brise des voitures. Et puis en cyclisme, le néerlandais Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Poulidor, est devenu le 7e coureur de l'histoire à remporter le Tour de Flandre pour la 3e fois.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Sonia De Villers, bonjour.
Aurélie Dupont, danseuse étoile et ancienne directrice de la danse à l'Opéra de Paris, publie son autobiographie et raconte sans détour le bonheur de danser, mais aussi les souffrances endurées par sa génération.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le philosophe Heinz Wissmann qui publie « Lire entre les lignes sur les traces de l'esprit européen » aux éditions Albin Michel. 9h20, Léa Salamé reçoit la peintre Apollonia Sokol.
France Inter.
Est-ce le début de la fin du président turc Recep Tayyip Erdogan? Son parti islamo-conservateur, l'AKP, au pouvoir depuis 22 ans, enregistre une lourde défaite aux municipales. Un scrutin local qui avait valeur de test pour l'administration Erdogan et qui espérait bien reprendre, entre autres villes, le trésor national qu'est la ville d'Istanbul. À quelques heures de l'annonce des résultats officiels, la débâcle électorale de l'AKP est actée et le maire d'Istanbul voit s'ouvrir un destin national. Reportage de Marie-Pierre Véraud, envoyé spécial à Istanbul pour France Inter.
Haranguant la foule rassemblée devant le siège de la métropole, Ekrem İmamoğlu savoure sa victoire. Il énumère les quartiers conquis ce dimanche soir. Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Jatalca et Üsküdar. Üsküdar, là où le président Erdogan a sa résidence, là où il a voté ce dimanche matin. L'humiliation suprême. İmamoğlu dispose de la majorité qui lui manquait jusqu'à présent pour gouverner la métropole d'Istanbul et il lance un avertissement.
Istanbul a donné ce soir un message historique au plus haut niveau de l'État. Istanbul a dit « Je suis du côté de la démocratie, je suis du côté de la justice ».
Le maire d'Istanbul redonne de l'espoir à l'opposition, elle qui était assommée par les défaites de l'an dernier. Les klaxons ont retenti un peu partout dans la ville, comme après une victoire dans un match de foot. Le large sourire sur son visage fatigué dit aussi qu'il sait qu'il a gagné une stature de présidentiable. Ekrem İmamoğlu est plus que jamais l'adversaire numéro 1 du président Erdogan sur la scène nationale. Istanbul, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Des élections maintenant, nous sommes à bout, nous allons mettre tout le pays à feu. Cri de désespoir à Jérusalem pour des milliers de manifestants qui, rassemblés hier soir, ont réclamé une nouvelle fois le départ du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Plus déterminé que jamais, les manifestants ont bloqué des routes et forcé des barrages de police. À Gaza, le Hamas affirme avoir découvert des dizaines de cadavres dans l'hôpital Al-Shifa, et cela après le retrait des chars de l'armée israélienne. L'armée qui accuse les combattants du Hamas de se cacher dans les hôpitaux avait lancé le 18 mars une opération contre Al-Shifa, située dans la ville de Gaza, au nord du territoire palestinien. Nous serons en direct de Jérusalem dans le journal de 7h30. Il y avait une foule jeune et joyeuse hier à minuit devant la porte de Brandebourg à Berlin. Des centaines de personnes, un joint à la main, ont célébré le changement de loi en Allemagne, la légalisation du cannabis récréatif. La loi votée en février entre en vigueur aujourd'hui et fait de l'Allemagne le 3e pays de l'Union européenne à légaliser cette plante psychotrope après Malte et le Luxembourg. Pour autant, Sébastien Baer, l'accès au cannabis et sa consommation restent encore encadrés.
Les quantités autorisées sont plutôt généreuses. Chaque adulte pourra avoir en sa possession, dans l'espace public, 25 grammes de cannabis et jusqu'à 50 grammes à son domicile, de quoi rouler en moyenne 150 joints. Pour s'approvisionner, deux possibilités, soit cultiver 3 plants de cannabis maximum à son domicile, soit adhérer à un club cannabis. Moyennant une cotisation, chaque membre pourra obtenir 50 grammes par mois à partir du 1er juillet. juillet, 30 grammes pour les majeurs de 18 à 21 ans. Le cannabis premier prix sera vendu 3 ou 4 euros le gramme, c'est environ deux fois moins cher que sur le marché noir. Mais pas question de fumer n'importe où. La consommation est interdite à moins de 100 mètres des écoles, crèches, terrains de jeu et installations sportives, ainsi que dans les zones piétonnes pendant la journée. 4,5 millions d'Allemands consomment régulièrement du cannabis, soit 9% de la population adulte. Pour le gouvernement, cette légalisation doit permettre de lutter plus efficacement contre les trafics. L'opposition conservatrice pointe de son côté le risque de banalisation du cannabis. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
Il est 7h06, l'enquête sur la mort du petit Émile, disparu l'été dernier, est relancée.
Ce sont bien des restes de l'enfant volatilisé depuis 9 mois qui ont été retrouvés hier par une randonneuse à proximité du village du Haut-Vernay. De nouvelles fouilles vont être menées dès ce matin pour collecter de nouveaux indices, car à ce stade, sa mort reste inexpliquée. De nombreux gendarmes sont désormais mobilisés pour en premier lieu trouver sur le terrain de nouveaux éléments, comme l'explique la colonelle Marie-Laure Pesan, porte-parole de la gendarmerie nationale.
On a une centaine de gendarmes qui sont déployés, des gendarmes mobiles, des gendarmes locaux, des équipes cynophiles, et nous aurons des experts pour justement poursuivre les investigations et voir si on a d'autres indices à collecter sur place. Ça peut être des vêtements, ça peut être de nouveaux ossements, ça peut être des déchets qui ont pu être laissés. Enfin, il y a tout type d'éléments au niveau de la végétation. Il y a un certain nombre de choses aussi à analyser. C'est pour ça qu'une de nouvelles fouilles vont être mises en place, puisque cette découverte ne permet pas de privilégier une piste. Donc ça peut être un tiers qui a amené ses ossements, ça peut être un animal qui a déplacé, ça peut être aussi la configuration des lieux qui s'est modifiée à cause de conditions météorologiques particulières. Donc toutes ces pistes-là sont exploitées.
La porte-parole de la gendarmerie au micro de Julie Gascot de France Bleu Provence. L'Indre-et-Loire, toujours en alerte aux crues ce lundi. Le niveau de différents cours d'eau n'ont cessé de monter ces dernières 48 heures. À Chinon, 750 personnes ont été priées d'évacuer leur maison. Hier soir, en Haute-Vienne, à 10 km à l'ouest de Limoges, un kayakiste était toujours recherché. À partir d'aujourd'hui, 1er avril, les automobilistes et les motards n'auront plus besoin de vignettes vertes ni d'attestation d'assurance, car les forces de l'ordre ont désormais accès à un fichier dématérialisé. Jusqu'à présent, l'absence du petit autocollant était passible jusqu'ici d'une amende de 35 euros. Agnès Soubiran.
206 000 conducteurs sanctionnés en un an pour défaut d'assurance et selon les estimations de la sécurité routière, entre 700 et 800 000 conducteurs seraient aujourd'hui hors la loi. Un fléau pourtant lourd de conséquences en cas d'accident. Olivier Moustakakis est le fondateur d'assuranceland.com.
Quand on dit ça peut à vie vous endetter, vous allez devoir payer des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros en fonction de la gravité de l'accident que vous avez causé, s'il y a des blessés notamment, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point ça peut être dramatique pour eux dans le futur, de rouler sans assurance.
Une assurance en responsabilité civile qui couvrira les dommages que vous causez est suffisante. L'assurance tout risque n'est pas une obligation. Désormais donc, policiers et gendarmes pourront accéder directement aux fichiers des véhicules assurés qui existent déjà.
Les forces de l'ordre, en consultant la plaque d'immatriculation, se connecteront directement à ce fichier et verront si le véhicule est assuré ou pas.
Un système d'ailleurs largement utilisé par nos voisins européens. Enfin, sachez que les trottinettes et vélos électriques dont la vitesse dépasse les 25 km/h ne sont pas référencés dans le fichier et que leurs utilisateurs doivent donc être en mesure de présenter une attestation d'assurance en responsabilité civile.
Et quant aux autres changements du 1er avril, on en reparle dans le journal de 7h30. À Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, les urgences du CHU évacuées à cause d'un incendie dans un local technique. Une trentaine de patients ont dû être installés dans l'ancien self du bâtiment. En politique, il y a de l'eau dans le gaz entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. À 2 mois et demi des élections européennes, la campagne de Marion Maréchal peine à décoller. La tête de liste du parti d'extrême droite Reconquête et son président Éric Zemmour sont en plein désaccord sur la stratégie à adopter. Ce dernier pense qu'il faut taper dur sur le Rassemblement national, contrairement à la petite fille de Jean-Marie Le Pen, qui, de par cette filiation, n'a pas la même liberté de ton. Élodie Forêt.
Un déjeuner houleux. Alors que se prépare en mars le premier grand meeting de la campagne au Dôme de Paris, Éric Zemmour et Marion Maréchal s'affrontent à propos du RN. Sur l'économie, le travail au Parlement, il faut les attaquer, défend Éric Zemmour. Marion Maréchal, elle, refuse, convaincue que les destins des deux partis sont liés, position qu'elle assume lors du meeting.
Marine, Jordan, je veux vous dire que nous ne sommes pas des ennemis. Si nous sommes bien sûr des concurrents, nous sommes aussi complémentaires.
Dans leur fauteuil, les proches d'Éric Zemmour tressaute. Si on est complémentaire, pourquoi ne pas voter directement pour eux ? Soupire un cadre, inquiet des sondages, un électeur zémouriste sur deux tenté par un bulletin Bardella. Autour de Marion Maréchal, en revanche, beaucoup d'anciens du Rassemblement national espèrent encore convaincre l'électorat RN. « Nous, on veut l'union des droites », rappelle un ami de la candidate qui, malgré les critiques, persiste vendredi sur TF1.
« Je continue de penser Merci. Que demain, il faudra travailler avec le Rassemblement national. »
Marion Maréchal, critiqué aussi en interne pour sa campagne. « Il va falloir faire des coups, être visible », supplie l'écurie Zemmour, qui espère convaincre Sarah Knafo, influente conseillère et compagne de l'ex-candidat, de prendre la troisième place de la liste pour réveiller à minima l'intérêt médiatique.
Élodie Forêt.
Il est 7h11 en cyclisme. Le roi des Flandres s'appelle Mathieu Van Der Poel.
Intouchable, le Néerlandais a décroché hier une troisième victoire après ses succès en 2020 puis 2022. À 29 ans, il devient du même coup le 7e coureur de l'histoire à gagner ce monument belge. De quoi, pour le petit-fils de Raymond Poulidor, de construire encore un peu plus sa légende. Fanny Lechevestrier.
Brandissant son vélo au-dessus de sa tête sur la ligne d'arrivée tel Hercule après l'un de ses 12 travaux, cela restera comme l'une des images du Tour des Flandres. Comme celle de son attaque 45 km plus tôt dans le Koppenberg, lui sur le vélo, les autres pieds à terre, forçant l'admiration du peloton à l'image de Julien Alaphilippe.
Ouais, c'est impressionnant. Félicitations à lui. Son plus mauvais résultat, c'est 4e.
Encore plus fort, ces 5 dernières années, Mathieu Van Der Poel n'a même jamais quitté le podium du Rond. Et à seulement 29 ans, il a tout pour prétendre devenir l'unique coureur de l'histoire à 4 victoires pour l'Allemand Nils Poli. 3e hier, pas de doute, le meilleur CVDP.
C'est le champion du monde et il a encore montré pourquoi.
Gagner avec le maillot de champion du monde, c'est d'ailleurs ce qui comptait le plus hier pour Mathieu Van Der Poel, au-delà de tous les records.
Ouais, surtout gagner avec le maillot championnat du monde. Le Ronde, c'est quand même quelque chose de spécial.
Mais le Néerlandais le sait, cette semaine, tous les regards seront encore sur lui, car dimanche, dans l'enfer du Nord, il pourrait devenir le premier coureur en activité à collectionner 6 monuments, 6 classiques de légende, soit une de plus que Tadej Pogacar, loin tout de même encore des 19 monuments du cannibale Eddy Merckx.
En football, Paris aura été trop fort pour l'OM, en dépit de l'expulsion rapide de Lucas Beraldo et de la très discrète prestation de Kylian Mbappé. Le PSG s'est imposé hier soir 2-0 au Vélodrome face à Marseille. Les Parisiens, donc toujours leaders du championnat, et les Marseillais à la 7e place.
Merci Laurence Thomas. Dans 3 minutes, c'est le Zoom. Aujourd'hui, à bord du Belém, le voilier qui va rapporter la flamme olympique pour les Jeux de Paris.